des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Axel Mauger.
Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui dans le studio de Canal Académie le professeur Michael Edwards. Qui est Michael Edwards? Eh bien, je le considère comme un merveilleux francophile. Il est né en 1938 près de Londres, étude à Cambridge, enseigne à l'université en Angleterre avant d'être élu professeur au Collège de France sur une chaire qui est à la fois une chaire de poétique dans la succession de Paul Valéry et d'Yves Bonnefoy, et la première chaire de littérature anglaise créée au Collège. Son originalité en tant que poète vient de ce qu'ayant commencé en anglais, il écrit maintenant également en français, son bilinguisme suscitant beaucoup d'intérêt, lecture de poèmes partout en France, et vous allez le découvrir dans un instant, c'est un merveilleux poète, entretien dans la presse et à la radio, France Culture, entre autres. Philosophe de la création littéraire et artistique, il développe dans de nombreux livres une grande réflexion originale sur la nature et la finalité de l'art en interrogeant la littérature, la peinture, la sculpture, la gravure, la musique. Ses lecteurs apprécient surtout sa recherche d'une sagesse, retenez bien cet élément, ce mot de sagesse, d'une sagesse au-delà du savoir, sa capacité d'éclairer tous les détails d'une œuvre. Il n'est pas shakespearien pour rien, et sa détermination à discerner sans cesse l'importance de la littérature et des autres arts pour la vie. Ses cours au Collège de France étaient suivis au Collège même et sur France Culture par un très large public enthousiaste. Voilà, professeur Michael Edwards, encore une fois, merci de venir jusqu'à Canal Académie. Et j'aimerais d'abord que vous me parliez un petit peu de votre parcours personnel, c'est-à-dire comment un monsieur qui est né près de Londres se retrouve bon nombre d'années plus tard, c'est passé vite, je pense, professeur au Collège de France.
Est-ce que vous voulez la réponse en 5 minutes ou en 2 heures?
Écoutez, 5 minutes sera très amplement suffisant, très mais j'aimerais vous offrir 2 heures.
Non, il est vrai que le fait que je m'intéresse à la France, à la langue française, à la littérature française depuis le début, ne cesse de m'étonner, parce qu'effectivement, je suis anglais d'origine, j'ai la nationalité française, mais j'ai du sang presque entièrement anglais dans les veines. J'ai été éduqué à Cambridge, je me destinais très tôt à être probablement enseignant et certainement poète, mais en anglais. Mais à un certain moment, très tôt, lorsque j'ai rencontré la langue française pour la première fois au lycée, à l'âge de 11 ans, j'ai été happé au passage.
Quels auteurs vous ont vraiment ravi, ému, bouleversé, si j'ose dire?
Les premiers, c'était Racine, Pascal, Baudelaire. Il y en avait peut-être d'autres, mais je me rappelle que très jeune, j'ai lu ces auteurs-là avant d'aller à l'université ou à l'université. Et elles m'ont donné une autre façon d'aborder le monde, une autre manière de penser, un autre rythme de penser et une langue tellement différente de l'anglais, mais en même temps tellement proche, parce que l'anglais est en partie une langue française, étant donné l'impact des Normands en 1066, tellement loin, mais tellement proche, que le français était en quelque sorte l'autre de la langue anglaise. Et j'ai toujours trouvé, quand je dis toujours, je veux dire, disons à partir de l'université, lorsque j'étais étudiant, que vivre dans les deux mondes et venir aussi tous les ans en France me permettait d'avoir une double vie, finalement.
C'est merveilleux.
D'exister, tout à fait. Mais je suis très reconnaissant du fait que j'ai été attiré, charmé, enchanté par le français si tôt. Je me dis maintenant que...
Votre enchantement date de quel âge, à peu près?
11 ans. Nous ne pensions pas dans ma famille aux langues étrangères et aux cultures étrangères. Et c'est au moment où j'ai commencé à apprendre le français au lycée que je me suis rendu compte qu'il y avait un autre monde, et même un infini d'autres mondes.
Je vous arrête une seconde pour offrir à nos lecteurs ce livre que j'ai découvert il y a quelques jours, donc de Michael Edwards, Rivage mobile, chez l'éditeur Arfuyen, Arfuyen, A-R-F-U-Y-E-N. Et je dois dire que je suis tombé non seulement sous le charme, mais j'ai été stupéfait par la profondeur, la sensibilité, la douceur. Je vous rapprochais juste sur ce point de Senghor, pour la douceur de Senghor, mais juste sur ce point. Et je me permets de lire ce premier recueil de Michael Edwards, Rivage mobile arfuyen, Le clair du seuil. Écoutez, c'est un grand recueil de poésie fait par un monsieur de langue anglaise qui a cette chance assez étonnante de visiblement de connaître, d'utiliser aussi bien une langue que l'autre. Je n'ose pas dire, bien évidemment, une est peut-être légèrement meilleure que l'autre, mais peu importe. Et c'est admirable. Et d'ailleurs, dans ce recueil, qu'on peut se procurer très facilement, et je le conseille pour les fêtes de Noël, c'est vraiment une merveille. Vous avez la page anglaise, la page française. Par exemple, Le clair du seuil s'appelle Moving House. Un très, très beau poème, et tous ceux qui suivent aussi. Allez-y.
C'est le premier d'une série de 7 poèmes. Ce n'est plus la maison. Chaque pièce, vide, se remplit d'un jour nouveau. Les livres, les lampes qui descendent lentement sur les marches du rêve s'éloignent dans le vague des camions. Un spectre fragile nous soutient, si peu nous-mêmes. Débarrassée, visible. Elle rend tout léger la lumière qui entre et qui possède la maison. La demeure, partout, tremble de silence. Une douce clarté efface les cloisons. L'air est lourd d'une absence d'être. Nous touchons le soleil sur les fenêtres.
C'est un poème tout à fait admirable comme ce recueil, et je me répète un petit peu, et je dois dire qu'il y a longtemps, c'est-à-dire il y a vraiment des mois et des mois, que je n'ai pas lu quelque chose qui me touche profondément, je suis sûr peut toucher énormément de personnes, parce qu'il y a une infinie sensibilité et une infinie sérénité. Et ça, je crois que dans un monde où la sagesse n'est pas spécialement au rendez-vous, vous nous offrez une sagesse, c'est de l'or en barre, si vous voulez, etc. Donc, merci infiniment et n'oublions pas de Michael Edwards, Rivage mobile et arfuyen. Alors, question qui me vient, quels sont les poètes de qui vous vous sentez proche, aussi bien anglais, français, même étranger, de qui vous sentez-vous proche? Je n'ai pas dit influencé, je dis proche. Villon, il me semble avoir décelé.
Villon, bien sûr, mais Villon est tellement au-dessus que j'aimerais bien me rapprocher de lui. Non, les poètes contemporains que j'admire le plus et que je lis le plus, sans être influencé, effectivement, je ne saurais pas dire par qui j'ai été influencé, sont Yves Bonnefoy et Philippe Jacoté pour la France, et en Angleterre, Charles Tomlinson, et Geoffrey Hill, qui est un grand poète que j'ai invité récemment au Collège de France. Parmi les poètes du passé, en France, c'est Racine et Baudelaire, en premier lieu. Mais j'ai été influencé par beaucoup de poètes dans le sens qu'ils m'ont permis de repenser un peu la poétique. Mallarmé, par exemple. Je ne pense pas que j'écrive comme Mallarmé. D'ailleurs, je suis sûr que ce n'est pas le cas. Mais les idées de Mallarmé m'ont beaucoup marqué. Non, non. En Angleterre, je suppose surtout, ce sont des noms en quelque sorte banals, parce que tout le monde aimerait bien se trouver proche d'eux, mais en Angleterre, c'est Milton et Wordsworth. Et T.S. Eliot. Eliot, qui était américain à l'origine, mais qui est devenu anglais, ça m'intéresse beaucoup, vous voyez. Là, lui aussi s'est en quelque sorte exilé dans un pays qu'il aimait autant que son pays natal. Eliot, je l'ai lu à l'âge de, je ne sais pas, 14-15 ans, et il m'a complètement, totalement ébloui. Et j'ai mis longtemps à digérer Eliot, afin de pouvoir écrire sur lui. Je pense que j'ai écrit un petit livre sur lui quand j'avais 35 ans. Vous voyez ça, j'ai mis longtemps à l'assimiler. Comme j'ai mis très longtemps à assimiler Shakespeare. Vous avez dit tout à l'heure, très aimablement, que je suis shakespearien. Et en un sens, c'est vrai, parce que j'ai publié 4 livres à son sujet. Mais j'ai publié mon premier livre sur Shakespeare quand j'avais, 64 ans, 65 ans même, je ne me rappelle pas très bien. Enfin, c'est assez tardivement. Autrement dit, les idées se sont mûries pendant
très longtemps. Ah oui, il y a chez vous, c'est vrai qu'il y a un mirifique mûrissement, il y a quelque chose, un mûrissement qui passe d'œuvre en œuvre, de poète en poète, d'écrivain en écrivain. Ça, c'est quand même... Qu'est-ce qu'il y a de racinien chez vous ? Est-ce qu'on pourrait dire, sans exagérer, que dans ce rivage mobile, le poème que nous avons tiré de ce recueil, Le Clair du Seuil, est-ce qu'il y a quelque chose de racinien ? C'est-à-dire que vous auriez gardé la douceur de Racine, alors par contre, la fureur racinienne, je n'ai pas l'impression que ça soit quelque chose qui vous intéresse particulièrement. Mais est-ce qu'il y a de la douceur racinienne qui aurait pu vous séduire ou c'est vraiment...
Je ne sais pas, je ne pense pas, mais c'est à d'autres de le dire. Mais comme j'ai dit, je ne pense pas avoir été influencé par qui que ce soit. Mais ce que je trouve chez Racine, entre autres choses, c'est une autre façon de dire le monde. Bien sûr, pour un Anglais, Racine est toujours l'autre par excellence, surtout pour quelqu'un qui s'intéresse énormément et profondément à Shakespeare. Et dans le poème que vous m'avez invité à lire, très aimablement, merci, je vois qu'entre la version anglaise, parce que dans ce livre, il est question de 35 poèmes en version anglaise et en version française, il ne s'agit pas vraiment de traduction, mais dans le passage de la version anglaise à la version française, je vois qu'il y a aussi une sorte de passage de l'anglais au français. Et ce passage, je l'ai appris surtout en lisant certains poètes du XVIIe siècle en France, dont Racine en premier lieu, mais aussi La Fontaine.
Et d'ailleurs, vous dites quelque part que, après avoir écrit vos poèmes en français, il vous arrive de corriger votre anglais, c'est-à-dire de refaire en anglais, même le poème, et vice-versa peut-être. C'est assez fascinant, je dois dire, c'est vraiment fascinant. Il faut une science de la langue exceptionnelle pour en arriver là.
J'ai découvert qu'en traduisant, non seulement il faut faire un poème, bien sûr, parce que certains de ces poèmes-là sont en un sens des traductions. En traduisant, il faut faire un poème, mais en même temps, pour faire un poème, il faut en quelque sorte refaire le geste créateur du poète qu'on dit original. Autrement dit, il faut entrer de nouveau dans le poème. Et quand on entre de nouveau dans son propre poème, on peut voir des choses qu'on ne voyait pas à l'époque. C'est un peu comme la mémoire. Hein. Wordsworth, qui revient à des moments de son passé, voit des choses qu'il n'avait pas vues à l'époque et qui sont, pour lui, les choses essentielles. Donc, j'ai développé certains poèmes anglais à partir de cette expérience d'essayer de les réécrire en français.
Je vous propose de marquer une pause. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. Nous reprenons dans une petite seconde.
Jacqueline de Romy, de l'Académie française, partage avec vous son amour pour le grec ancien à travers plusieurs émissions sur Canal Académie. Téléchargez dès maintenant Thucydide et La construction de la vérité en histoire, Le sourire innombrable, Dans le jardin des mots ou encore Les roses de la solitude, sans oublier une émission en habit vert consacrée à son parcours. Toutes ces émissions sont disponibles librement sur le site de Canal Académie.
Alors, cher professeur, il y a ce livre exceptionnel que vous venez de publier, donc Michael Edwards, Shakespeare, le poète au théâtre, chez Fayard. Alors là, il faut reconnaître que c'est une œuvre, c'est considérable. Et la première question que j'ai envie de vous poser, pourquoi le plus grand poète anglais choisit-il d'écrire avant tout pour le théâtre ?
C'est précisément la question que je me suis posée, oui. J'ai essayé de donner plusieurs réponses. Je ne pourrais pas tout dire maintenant, évidemment, parce que nous n'avons pas le temps. Mais il me semble d'abord qu'il faut éloigner de notre esprit l'idée que la poésie, disons lyrique, est en quelque sorte la forme supérieure de l'écriture et que le fait que Shakespeare a choisi d'écrire surtout pour le théâtre pose problème. Je pense au contraire que le fait qu'il a choisi d'écrire pour le théâtre nous donne la possibilité de réfléchir à nouveau sur la poétique et la poésie et de voir que Shakespeare a élargi le possible de la poésie en décidant d'abord d'écrire le genre de poésie où il peut, ça semble banal, mais en fait c'est extrêmement profond et nécessaire, où il peut se mettre dans la peau de toute une série de personnages qui sont tous très loin de lui, qui ont très souvent une façon de penser à l'opposé de la sienne.
Vous êtes fasciné par les personnages. Vous dites à un moment donné dans votre livre, c'est un merveilleux personnage.
Je dis même un personnage, c'est merveilleux. Oui, parce que ce que j'ai découvert en réfléchissant à cette question, c'est d'abord le fait que dans les personnages relativement mineurs, et même dans les personnages tout à fait, apparemment, sans importance, il y a un travail poétique de Shakespeare qui lui permet d'entrer dans leur conscience et de parler à partir de cette conscience. Il y a un moment merveilleux, par exemple, si je peux vous donner un détail. Vous avez parlé au début du fait que j'essaie d'éclairer les détails d'une œuvre, et la raison pour laquelle je le fais, c'est qu'il me semble absolument clair que c'est dans les détails de l'œuvre que l'on voit la profondeur de la chose. Et dans Macbeth, il y a un premier meurtrier. Vous savez, dans la liste des personnages de Shakespeare, dans chaque pièce, qui est une liste très très longue, il y a un premier gentilhomme, premier meurtrier, deuxième meurtrier, etc. Un premier meurtrier, tout à fait inimportant, sans importance. On ne peut pas dire inimportant en français, c'est curieux. Je l'ai dit, et ça va venir. Et à un moment, il attend Banquo et son fils pour le tuer. Autrement dit, il est dans une position, dans la position d'un voyou, d'un meurtrier. Et il regarde l'heure le soir et il dit « C'est l'heure où le voyageur attardé éperonne son cheval pour gagner l'auberge bienvenue. » Autrement dit, un meurtrier qui est sur le point de commettre un acte irréversible et à l'époque un acte damnable, il se voue à l'enfer, a la possibilité néanmoins de penser qu'il y a des gens qui chevauchent la nuit dans une forêt très dangereuse où il y a des bandits, etc., et que ces gens-là guettent l'apparition d'une auberge qui va les sauver, etc. Et lui se met dans la conscience de ce personnage imaginaire, le voyageur. Hein. Et je pense que c'est une sorte de mise en abîme du théâtre shakespearien, où Shakespeare se met dans la conscience d'un meurtrier, pour montrer ce qu'il y a d'humain dans le meurtrier, le fait qu'il est, même dans un moment pareil, capable de se mettre à la place d'un autre. Et autrement dit, il y a une sorte de double entrée dans la conscience d'un autre. Shakespeare entre dans la conscience du meurtrier qui entre dans la conscience d'un personnage imaginaire, comme le meurtrier lui-même est un personnage imaginaire.
Peut-être un peu comme, souvenez-vous, le personnage Chen dans La condition humaine de Malraux, où il y avait un peu cette interrogation aussi, enfin on voyait vraiment le meurtrier. Mais alors, ce qui est, pour revenir à vous, à Shakespeare, en effet, il y a quelque chose qui est assez fabuleux. On peut dire que la poésie permet de découvrir le fond de l'être, probablement mieux que la psychanalyse.
Non, tout à fait. Et je pense qu'une deuxième chose que l'on découvre en pensant à Shakespeare poète au théâtre, c'est qu'il a réfléchi profondément au théâtre et ce que le théâtre signifie. Alors tout le monde cite Hamlet, bien sûr, et Jacques dans « Comme il vous plaira, le monde entier est un théâtre ». Mais je pense que Shakespeare va beaucoup plus loin et qu'il voit dans le théâtre une sorte de fiction, un lieu autre, le seul genre littéraire où, au lieu d'être, surtout dans notre conscience, comme quand nous lisons de la poésie ou quand nous lisons un roman, etc., nous sommes dans un milieu tout à fait visible, matériel, où il y a des acteurs, des costumes, une scène, un décor, etc., mais où tout ce que nous voyons est une fiction. Les personnages sont en réalité des acteurs, les costumes sont des déguisements, et Dieu sait que le déguisement est important pour Shakespeare, on peut en parler si vous voulez. La scène est un lieu fictif, et je pense que ça a donné à Shakespeare l'idée que le théâtre est précisément le lieu autre dont nous avons besoin. J'ai parlé il y a un instant du fait que pour moi la France et la culture française est un lieu autre par rapport à l'Angleterre.
À l'Angleterre.
Et je pense que pour Shakespeare, la poésie nous donne, et surtout la poésie au théâtre, nous donne la possibilité de sortir de nous-mêmes pour entrer dans un autre monde avant de revenir dans le nôtre. Et ça a dû lui donner aussi l'idée de construire beaucoup, mais beaucoup de pièces où les personnages eux-mêmes s'aventurent dans un lieu autre. Dans la forêt de, comme il vous plaira, par exemple, la forêt d'Arzagne.
Ce qui est une démarche poétique, essentiellement.
Tout à fait.
Vous écrivez dans l'introduction, c'est très très important, ça n'a pas été dit à ma connaissance, la pratique du théâtre chez Shakespeare élargit, ce que vous étiez en train de dire, l'idée même de la poésie. Et c'est ça qui est quand même impressionnant, c'est cette de pénétrer à travers le théâtre de Shakespeare dans la poésie, dans le phénomène poétique. Et c'est assez extraordinaire comme démarche.
Je pense que dans une pièce de Shakespeare, nous sommes en pleine poésie. C'est-à-dire que nous sommes dans un lieu autre où le monde lui-même est en jeu, en quelque sorte. Le monde peut être transformé, le moi des personnages peut être transformé, et dans la plupart de ces pièces, peut-être même dans toutes ces pièces, le monde effectivement change. Il y a au moins un personnage qui change profondément, mais très profondément. On aurait parlé à l'époque de conversion. C'est une conversion de l'être, religieuse ou autre, qui arrive normalement vers la fin de la pièce, vers la fin de presque toutes ces pièces. Il y a au moins un personnage, parfois un personnage, encore une fois, plus ou moins secondaire, qui change. Et je pense que pour Shakespeare, l'essentiel dans la poésie, c'est qu'elle transforme le monde, pas en transformant le réel en lui-même, évidemment, mais en transformant notre perception du réel. Et elle nous donne la possibilité de nous transformer nous-mêmes.
Ça, c'est extraordinaire. Ça. Est-ce que Shakespeare, au fond, nous donne des clés d'une vie probablement, est-ce qu'on peut dire ça, plus humaine, dans un monde qui ne l'est pas toujours?
Je pense, oui. Oui. C'est très bien dit d'ailleurs. Et pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, il s'intéresse précisément à l'être. Il s'intéresse à la psychologie. Il y avait un moment où les critiques shakespeariens étudiaient à longueur de journée la psychologie des personnages. Ensuite, il y a eu une réaction où on pensait que la psychologie n'était pas importante. Il me semble qu'il s'intéresse à la psychologie parce que ce sont les détails de la personnalité de ces personnages qui les différencient les uns des autres, qui leur donnent leur façon de voir le monde, etc. Mais au fond, il s'intéresse à l'être. Et sa façon de s'intéresser à l'être est extrêmement profonde. Tout le monde connaît « to be or not to be », être ou ne pas être, mais ce vers résonne dans toutes ses pièces. Il y a un moment dans, sans doute, sa toute première pièce, « Les deux gentilshommes de Vérone », où, donc, la pièce d'un assez jeune homme, pas très jeune, mais d'un jeune homme, où Valentin, voyant qu'il va peut-être perdre la jeune femme, la jeune fille qu'il aime, dit... Je les lis d'abord en anglais, si vous me permettez.
Nos auditeurs suivent souvent en anglais. Nous avons 150 000 auditeurs dans le monde anglophone. Donc,
félicitations.
Je vous en prie.
She is my essence, and I leave to be, if I be not by her fair influence, fostered, illumined, cherished, kept alive. Elle est mon essence, et je cesse d'être si je ne suis, par sa bonne influence, nourri, illuminé, encouragé, tenu en vie. Et ce que je remarque, c'est d'abord le fait qu'il met le mot « to be », les mots « to be » à la fin du vers, comme il le fait très souvent, pour que le mot résonne. On peut dire « la pomme est sur la table »,« the apple is on the table », et le verbe « être » disparaît. Mais on peut dire aussi « la pomme est ». Et dans Shakespeare, c'est « la pomme est » qui compte. « I leave to be », je cesse d'être.
Une question me brûle les lèvres. Est-ce que la puissance de l'être est plus forte chez les personnages masculins ou féminins, ou je vois que...
Ah oui, là j'hésite. C'est une très bonne question, une question que je ne me suis pas posée.
Aïe.
Je pense qu'il est vrai que... Non, je suis très reconnaissant. Je pense qu'il est vrai que c'est chez les personnages masculins que Shakespeare explore explicitement l'être, enfin le plus souvent, ce qui ne signifie pas qu'il ne s'intéresse pas aux personnages féminins de la même façon, parce que dans les comédies, tout le monde le voit, ce sont les personnages féminins qui sauvent les autres. Ils sont vraiment à la pointe de la réflexion shakespearienne. Et puis dans Cymbeline, je réfléchis comme ça, hein, dans Cymbeline, au moment où Imogène, qui pense que son mari est mort, au moment où on lui demande « Qui êtes-vous ?», elle répond « I am nobody », ou plutôt « I am nothing ».« I am nothing ». En anglais, « je suis rien ». En français, on est obligé de dire « malheureusement, je ne suis rien ». Oui. « Je suis rien ». Et je pense que c'est une très bonne question. Je pense qu'avec les personnages féminins, Shakespeare s'intéresse plutôt à une sorte de réserve d'être qui leur permet de se découvrir et d'aider les autres. Peut-être que j'ai tort d'ailleurs, parce qu'à la fin de La Nuit des Rois, Viola, qui a passé toute la pièce à ne pas savoir qui elle est, à se déguiser, à trouver que le moi qu'elle pensait être le moi ordinaire lui échappe, etc. À la fin, en présence de son frère, son jumeau, dit « I am Viola, je suis Viola ». Donc, il se peut que Shakespeare s'intéresse à cette question autant chez
Professeur Edward, c'est tout à fait fascinant. Je vous propose de marquer une autre pause et puis on se retrouve dans quelques instants pour continuer cet entretien tout à fait exceptionnel. Professeur Edward.
Canal Academy vous propose une série de 4 émissions consacrées à la philosophe française Simone Veil, dont on fête en 2009 le centenaire de sa naissance. Laure Adler, Sylvie Courtine-Denamy, Sylvie Veil et Bertrand Saint-Cernin nous livrent les fragments de la vie intense de Simone Veil, femme de conviction. Quant à la cinéaste Emanuela Piovano et la comédienne Lara Guirao, elles nous livrent leurs impressions sur le tournage du film consacré à la vie de la philosophe. Ces 4 émissions sont disponibles en libre téléchargement sur le site de Canal Academy.
Nous avons l'immense plaisir, j'ajouterai presque même le bonheur, de recevoir le professeur Michael Edwards du Collège de France. Alors, cher professeur, nous avons déjà un petit peu, si vous voulez, j'ose pas dire déplier le terrain, mais enfin, fait connaissance, permis aux auditeurs de connaître votre beau recueil Rivage Mobile, donc Michael Edwards, Rivage Mobile Arthurien. J'insiste parce que c'est un très grand livre de poésie et on a la chance, aujourd'hui c'est un véritable doublé, c'est la période de la chasse a commencé et nous avons de Michael Edwards le Shakespeare, le poète au théâtre. Donc tout cela est magnifique. Alors, professeur, il y a quand même une autre question qui me brûle les lèvres et c'est, vous dites, et c'est, je crois, l'introduction du Shakespeare, Shakespeare donne libre cours à son désir d'entendre l'anglais dans la plénitude de son existence. Alors ça, c'est quand même très, très impressionnant, la plénitude de son existence. Et vous qui êtes aussi, disons que vous avez une connaissance étonnante de la langue française, qu'est-ce qui pourrait, après que vous ayez pu répondre à cette espèce d'interrogation, qu'est-ce qui pourrait nous amener à la plénitude de la langue française?
Oh là, je pense que c'est autre chose, la langue française. Vous voyez, Shakespeare a eu l'avantage de naître précisément au moment où l'Angleterre n'était pas terriblement importante, mais le devenait, où la langue anglaise était plus ou moins ignorée à l'étranger, où les gens se posaient la question de savoir comment rendre la langue anglaise capable de tous les nouveaux savoirs de la Renaissance, etc., où il y avait un mouvement en faveur d'une sorte de purification de la langue en ne prenant que des mots d'origine anglo-saxonne, et un autre mouvement qui est précisément celui de Shakespeare et d'autres, qui voulait enrichir la langue en l'empruntant à droite et à gauche. Et il me semble que la plénitude de la langue anglaise se trouve précisément chez Shakespeare parce qu'il va dans tous les sens. Il est capable, à certains moments extrêmement émotionnellement profonds dans son théâtre, d'utiliser un langage d'une extrême simplicité que l'on peut traduire en français sans problème et que l'on peut imaginer écrit par Racine, par exemple.
Vous rappeliez l'autre jour que Shakespeare, c'est 20 000 mots au minimum, alors que Racine, c'est 2 000 mots.
Oui, à peu près. Ça dépend de comment on compte les mots, oui. Mais en même temps, à chaque fois qu'il veut faire dire à un personnage mineur quelque chose de très simple, comme « Bonjour, comment allez-vous ?», il est capable de trouver une façon d'écrire qui transcende toute la capacité des autres écrivains.
On a tendance à dire que Shakespeare, c'est le plus grand. Mais est-ce qu'après Shakespeare en Angleterre, il n'y a pas d'autres auteurs qui ont eux aussi une langue, disons, pleine de florescence, d'ébullition, et qui sont quand même aussi très importants, où vraiment Shakespeare continue aujourd'hui d'être le premier ?
Alors je pense qu'il continue d'être le premier, mais dans la succession, si on peut dire, de Shakespeare, il y a en premier lieu, pour moi, Dickens. Dickens qui a cette exubérance d'imagination, cette sagesse finalement, ce sens, je dirais presque philosophique de l'être, et aussi cette capacité d'entrer dans la langue et d'en faire une sorte de feu. Mais la plénitude de la langue française, c'est tout à fait différent. C'est ça que j'ai appris chez Racine quand j'étais étudiant, que la plénitude chez Racine, qui utilise, comme vous venez de le dire, très peu de mots, enfin on le sait, la plénitude, c'est dans, tout le monde le dit d'ailleurs, ce n'est pas mon idée, la plénitude, c'est dans la façon dont les mots travaillent les uns avec les autres, dont les connotations des mots affluent, et surtout, pour moi, mais c'est peut-être parce que je suis anglais, dans le fait qu'il, comme La Fontaine, il a la possibilité de concevoir des expressions qui sont immenses dans leur simplicité. L'exemple que je donne souvent, c'est « Dieu, que ne suis-je assise à l'ombre des forêts ?» À l'ombre des forêts. Alors, d'abord, si on essaie de le traduire en anglais, ça ne donne rien du tout. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est des forêts, l'ombre des forêts. Un anglais dirait à l'ombre d'une forêt ou de la forêt, ou encore mieux, à l'ombre d'un arbre, ou encore mieux, à l'ombre d'un chêne, voyez. Alors que dans Racine, il y a une sorte d'universalité de l'arbréité et un pluriel qui est, je crois, impossible en anglais, comme constamment chez La Fontaine, une façon de nommer le monde qui est une façon pleine, mais simple, sur les humides bords des royaumes du vent, par exemple. On essaie de traduire ça en anglais, ça ne donne rien du tout. Et c'est pour cela, je pense, que les Anglais, en général, sont fermés à Racine comme à La Fontaine.
Vous diriez, comme spécialiste des langues françaises-anglais, et en français et anglais, quel serait le peuple le plus imperméable à l'autre ? Est-ce que ce sont les Anglais qui sont les plus imperméables aux Français, ou le contraire, et pourquoi ?
Je pense que les Anglais, malheureusement, sont plus imperméables aux Français.
Parce qu'ils ont trop intégré de mots français ou de... C'est une petite question malicieuse que je me permets.
Non. La question me gêne, ça, tout simplement parce que je pense que cela vient du fait que les Anglais sont des insulaires dans tous les sens du mot. Peut-être depuis le 19e siècle, je ne sais pas si c'était la même chose avant, depuis le 19e siècle et l'Empire et tout le reste, il y a chez beaucoup d'Anglais un sentiment de supériorité naturelle, comme vous le savez. Et les Anglais trouvent très difficile de se mettre dans la peau d'un Français et de voir le monde comme un Français le voit. C'est la même chose pour les Français, mais il me semble que les Français font plus d'efforts. Les Français, en revanche, quand ils lisent Shakespeare, peuvent très bien être rebutés, je l'ai dit plusieurs fois, mais enfin je le redis, par l'immensité de son vocabulaire, par le fait qu'il entre précisément dans les détails et que les détails vibrent d'être.
Rassurez-vous, les Français sont souvent fascinés par Shakespeare,
bien sûr.
C'est évident. Alors, passons à une autre question. N'est-ce point grave que la poésie ait si peu de place dans nos sociétés occidentales?
Tout à fait. Est-ce que je peux juste, pendant un instant, revenir à cette autre discussion? Il y a constamment des pièces de Shakespeare à Paris, et j'en suis ravi. Il y a très peu de pièces de Racine à Londres. Ça se fait pratiquement jamais. C'est la même chose pour Molière, encore moins pour Corneille. Je pense que c'est très important de constater que la poésie occupe de moins en moins de place, effectivement.
Mais plus en France qu'en Angleterre, peut-être.
Non, je ne pense pas. Non,
on ne peut pas dire ça.
Non, vous savez, quand on passe continuellement entre les deux pays, comme je le faisais autrefois, maintenant je suis tellement français que je vais très peu souvent en Angleterre, mais quand je passais entre les deux pays, en Angleterre, on me disait « Ah, vous qui êtes spécialiste de poésie française, c'est merveilleux la France, toutes ces revues de poésie, tout cet intérêt pour la poésie, etc. » Quand je venais en France, les Français me disaient « Ah, vous qui êtes anglais, que c'est merveilleux l'Angleterre, toutes ces revues de poésie. »
Dans nos pays occidentaux, la poésie a la place qu'elle a, c'est-à-dire assez faible, et pourtant, vous le montrez, vous le démontrez à travers votre œuvre poétique, vous le démontrez à travers vos travaux et vos œuvres, sur Shakespeare notamment, l'importance extraordinaire que la poésie a eu dans notre vie d'être humain, c'est considérable.
Je pense qu'il y a deux choses à dire. D'abord qu'à un certain moment, disons vers la fin du 19e siècle, disons dans les écrits de Mallarmé en particulier, l'idée est arrivée que la poésie est la chose suprême de l'humanité. Et les ambitions de certains poètes pour la poésie ont probablement un peu desservi la poésie, parce que l'attente était trop grande. Il est évident que la poésie ne va pas sauver le monde. Il y aura toujours des guerres, des rumeurs de guerre, etc. La deuxième chose à dire, c'est que ce n'est pas simplement les poèmes qui sont importants. Et ce n'est pas simplement le fait qu'on lit, paraît-il, de moins en moins la poésie au profit d'autres formes littéraires ou au profit d'autres choses, tout simplement. Au profit de la télévision, le cinéma. Si je peux le dire, c'est le fait de vivre poétiquement. Parce que je pense que ce qu'on apprend quand on est poète, c'est que être poète, ce n'est pas simplement écrire des poèmes. Évidemment, c'est cela. Mais c'est aussi vivre poétiquement. Essayer de vivre de sorte que tout devient poésie autour de soi. Et on devient soi-même une sorte de poésie.
Je crois que vous avez merveilleusement répondu à certaines de mes questions, à certaines même de mes pensées. En lisant votre Rivage mobile de chez Arthurien, on a vraiment l'impression qu'on vit poétiquement. Et je crois que ça, c'est très, très, très beau et important, ce que vous venez de dire, c'est que vous nous offrez non pas des poèmes comme ça coupés du monde, vous nous offrez un art de vivre. Et d'ailleurs, ça se passe dans la maison. Enfin, beaucoup de scènes, j'ai eu l'impression, se passent dans cette maison. C'est une espèce d'intimité extraordinaire où tout se transforme en art de vivre, en sérénité, en sagesse, en plénitude, en un mot, etc. Quelle serait pour vous votre définition du poète ?
Eh bien, je préfère ne pas répondre parce que vous avez bien dit « pour moi ». Donc, je pourrais dire « pour moi, le poète, c'est ». Mais évidemment, pour les autres, ça peut être autre chose. Parce que je suis très, très conscient aussi du fait que, encore une fois, à partir d'un certain moment au XIXe siècle, probablement, on a commencé à dire « la poésie, c'est, le poète, c'est ». Et le résultat de cette...
C'est complexe.
Oui, a été de rejeter tout un pan de la poésie du passé comme étant non poétique. Edgar Poe, qui a été une très mauvaise influence, a dit que le long poème n'existe pas. Une épopée, c'est simplement une série de petits poèmes reliés par des passages qui sont prosaïques. Et il suffit de penser un instant pour voir à quel point c'est faux. Et il suffit de lire Homère dans le grec ou Milton dans l'anglais pour voir que c'est poétique d'un vers à l'autre.
Paradise Lost, Milton.
Oui, exactement.
Donc, il n'y a pas de définition. Enfin, c'est très, très difficile. Je me souviens de ce cher Maurice Druon qui vient de nous quitter et qui trouvait qu'on avait complètement mis de côté, oublié Henri de Régnier, qui pourtant, pour lui, était un des poètes les plus importants. Vous voyez, il y a des personnages qui disparaissent comme ça. Et alors, ce qui est très beau, on n'en a pas parlé tout à l'heure, parce qu'on ne pouvait pas parler de tout, c'est l'immortalité pour Shakespeare. Il n'y croyait pas trop. Lui, le premier des premiers, ne pensez pas à la postérité, à l'immortalité, alors que le moindre petit écrivain, si j'ose dire, veut absolument passer à la postérité, etc. C'est très impressionnant, ça.
C'est très impressionnant.
Très impressionnant.
Plus j'étudie Shakespeare, plus je me rends compte à quel point il était sage. C'était vraiment le sage de l'Occident. Et je pense que, pour répondre à la question que vous m'avez posée par le biais de Shakespeare, je pense que pour lui, et j'oserais dire pour moi, la poésie, c'est la possibilité de voir le monde autrement et la possibilité de se voir autrement. Et c'est la poésie surtout qui nous donne cette possibilité. Mais je n'exclus pas le roman. Je ne suis pas romancier, donc je laisse au romancier de se défendre. Et d'ailleurs, quand je lis des grands romanciers comme Dickens et Proust, je me rends compte que, bon, au fond, c'est la même chose. Mais la poésie en particulier, parce que d'un vers à l'autre, d'un mot à l'autre, on écoute le son des mots, le rythme des mots, on met les mots ensemble de façon parfois inouïe, littéralement inouïe. Et autrement dit, on renouvelle la langue. Et en renouvelant la langue, on renouvelle le langage et on renouvelle le rapport entre les mots et les choses. Et au mieux, on renouvelle aussi le rapport entre soi-même et la langue et les choses, et on permet un tout petit peu au lecteur, comme à soi-même en tant que poète, de changer. Et si je devais donner une définition très lapidaire de la poésie, je dirais que la poésie, c'est la possibilité de changer.
C'était une très belle définition. Puis alors, pour revenir encore un peu à Shakespeare, nous arrivons vers la fin de notre entretien, mais il observe, Shakespeare, comment les gens vivent leur conscience de soi et des autres. Cette extraordinaire possibilité d'altruisme, de connaissance, d'approfondissement des autres. Et puis alors, je dirais, en élément, disons, de conclusion, il faut bien à un moment donné se retirer sur la pointe des pieds, hein, un peu comme au théâtre. Pourquoi Shakespeare ne semble pas concerné, ça quand même, ça me turlupine en ayant lu votre magnifique livre, c'est pourquoi Shakespeare ne semble pas concerné par la notion de l'immortalité de l'écrivain sur Terre. Et cela peut faire sourire quand on lit et on relit Shakespeare, c'est puisque par bonheur, un Michael Edwards nous parle plusieurs siècles après de ce même Shakespeare. Alors, il y a quelque chose qui est très impressionnant. Alors, écoutez, Michael Edwards, je vous remercie infiniment d'être venu jusqu'à nous. Vous avez une œuvre qui est vraiment splendide. Elle est comme le diamant, elle a mille facettes. Et je rappelle ces deux livres de Michael Edwards. D'abord, la poésie Rivage mobile, Arthurien. Je pense que voilà un cadeau de Noël tout à fait éblouissant. Et si vraiment on veut faire deux cadeaux en même temps, ben pourquoi pas. Mais c'est un livre aussi magistral. C'est ce que l'abbé Bremond appellerait un cuirassé. Et ce cuirassé, c'est le livre de Michael Edwards qui s'appelle Shakespeare, le poète au théâtre chez Fayard. Merci infiniment, professeur.
Je vous remercie.